Histoire d'archives avec Monsieur Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Christophe, quel est le programme de cette journée?
Alors le programme est un peu dense. En fait, il revient sur des sujets qu'on avait déjà un petit peu évoqués à l'occasion de nos précédentes rencontres. Je vais en fait commencer par évoquer un sujet grave puisqu'il concerne la Deuxième Guerre mondiale et en particulier donc la question de la répression allemande et dans cette répression la participation des Français. Alors pourquoi vous parlerai-je de ce sujet? En fait, tout simplement parce que la semaine dernière, à l'invitation de la ville de Herbolzheim, je suis allé donc faire une conférence dans le cadre du 40e anniversaire du jumelage entre Sisteron et cette ville, pour justement évoquer cette question. Alors, ce qui peut paraître très paradoxal, on était le 7 mai, donc la veille évidemment des célébrations en France, sur un sujet qui, évidemment, très difficile à aborder. Et il paraissait presque paradoxal d'évoquer une telle question devant un public qui était composé donc d'habitants de cette ville et de Sisteronnais qui étaient venus en délégation. Surtout que j'ai évoqué au cours de cette conférence un sujet qui vraiment intéressait la commune de Sisteron, la ville de Sisteron, puisque cela concernait en fait un épisode tragique de l'après-débarquement en Normandie, donc la période juin-juillet, qui est cette période où les maquis se découvrent et qui avait entraîné en l'occurrence une répression très violente de la part des Allemands aidés par les Français collaborateurs. Alors, avant d'évoquer ce sujet, et pourquoi cette ville a eu connaissance de mon travail et celui des archives départementales, parce que je répète toujours, hein, je ne suis pas le seul agent à travailler sur ces sujets, et que derrière le directeur, il y a un service qui est composé de 22 personnes, tout simplement parce que l'année dernière, en novembre, Monsieur Pinel avait organisé une rencontre franco-allemande à Ballon. Alors Ballon, c'était une petite commune du sud de Rome, dans les Baronnies. Et au cours de cette journée, j'avais fait la connaissance justement de deux Allemands qui s'intéressent à ces questions. D'une part parce que c'est un sujet qui les concerne en général. Hein, c'est la question du nazisme, de l'occupation allemande, etc. en France, hein, d'occupation. Mais c'est aussi lié à l'histoire d'une dame qui a maintenant un certain âge, qui était la fille d'un juif allemand qui a combattu justement dans le maquis et qui a été victime de la brutalité des Allemands et des Français et qui a donc une tombe, qui a donc été enterrée en France et dont le nom est inscrit sur un monument aux morts. Alors du coup, on avait fait connaissance, on avait échangé, vous savez, comme toujours dans ces cas-là, nos informations. Et puis, on en était resté là en se disant, eh bien, à la prochaine rencontre, dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Et puis, ces personnes ont souhaité continuer à travailler là-dessus et donc à évoquer cette question. Alors, il faut dire aussi que ce sont des gens qui n'ont pas le profil d'historien. L'un est en fait un professeur retraité qui a fait sa carrière en Allemagne, mais qui est français, un Alsacien, qui travaille à former les ingénieurs forestiers. L'autre est justement un de ces ingénieurs forestiers qui est responsable d'une circonscription dans la ville en question, enfin autour de la ville en question. Alors ce qui fait que, comme je ne parle pas allemand, quand je suis allé donc pour cette conférence, je suis venu participer aussi aux cérémonies évidemment du jumelage, et j'ai eu l'occasion de découvrir des gens tout à fait intéressants et qui sortent d'ailleurs un peu du domaine. Vous voyez, on sort un peu du domaine des archives. Mais c'est aussi ça, vous voyez, le travail, parce que j'y allais, moi, en tant que directeur des archives départementales. Hein, je représentais, en fait, le service, le conseil départemental. Et donc, en allant à la rencontre de ces gens qui m'ont cornaqué, on va dire, hein, pendant trois jours, pendant toute ma présence, j'ai rencontré des gens passionnés de nature. Vous savez que les Allemands sont très en avance sur les questions environnementales. Donc j'ai droit à la visite des jardins, visite des plantations, on replante des espèces anciennes, on fait des expérimentations, la question des murs en pierre sèche, hein, on redresse les murs en pierre sèche, etc. Et puis l'un des deux, donc celui qui était formateur, qui était professeur d'université, Alors c'est fort intéressant, il m'a donné un article qui concerne des chouettes, les chouettes arfantes du Groenland, car aussi il travaille sur ces sujets-là, et donc il part régulièrement au Groenland pour aller mettre des balises sur les chouettes pour pouvoir les suivre. Vous voyez, donc là c'est vraiment le naturaliste dans toute sa splendeur, l'explorateur, hein, comme il dit, je suis un explorateur. Hein, et puis il s'intéresse aussi à l'histoire, comme je disais, et il met en œuvre en fait des techniques très contemporaines, dont la technique laser, pour repérer les anciennes cultures dans les siècles, au siècle passé. En fait, ils recherchent les traces fossiles des paysages. Et ils m'ont montré en fait un exemple de leur travail. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, vous avez un avion qui passe et qui fait des bandes de 400 mètres en émettant un laser, avec un retour d'un point par mètre, ce qui vous donne en fait la forme des champs aux endroits où la forêt a envahi le territoire et où elle a fossilisé en fait ce qu'il y avait avant. Et là, l'exemple était très précis. En fait, c'est une forêt donc, qui s'est développée à partir de la fin de la guerre de 30 ans, qui a été une catastrophe démographique. La Lorraine, on dit que la Lorraine a perdu la moitié de ses habitants. Donc ça, on est au 17e. Cette forêt donc, a recouvert complètement un paysage, et en le recouvrant, elle l'a protégé. Et ces techniques laser permettent en fait quoi ? Permet de, par le calcul, vous savez, tout simplement la distance, de définir le relief. Et on découvre, sous le couvert végétal actuel, la voie romaine, les anciens cours d'eau, le passage du cours d'eau, et surtout la forme des champs et même la trace des sillons. Car en fait, en passant et en repassant avec les instruments aratoires, on fait ce qu'on appelle un champ bombé. C'est-à-dire qu'en fait, le champ se bombe au fur et à mesure, voyez, et donc on est capable de définir où sont les limites de ce champ, hein, ce champ cultivé, hein, dans le cas évidemment d'une culture céréalière essentiellement, et même on a la forme du sillon. Voilà, donc vous voyez, pour vous dire que j'ai découvert quelque chose, mais ce n'est pas fini, il s'intéresse aussi aux arbres fossiles, et donc là, je les ai mis en contact avec la réserve géologique de Haute-Provence, hein, vous avez Miette Guillaumard hein, qui travaille sur ces sujets, et donc vous voyez, on a en fait prolongé nos échanges sur des questions qui sont sorties un petit peu des archives et de l'histoire des bandes bourgeois. Voilà. Alors je reviens à mon histoire des bandes bourgeois pour dire en fait que mon objectif était en fait de montrer justement le rôle des Français dans la collaboration, en particulier ce qu'on appelle la collaboration armée, alors qu'il se traduisait par la LVF, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, donc ceux qui ont été combattre sur le front russe, mais aussi tous ceux qui ont intégré les rangs de l'armée allemande, et ici, dans le cas présent, pour lutter contre les maquis. Alors, mon objectif, je poursuivais en fait trois objectifs. Le premier, c'était de montrer la capacité de ruse qu'utilisaient ces Français au service des Allemands, la brutalité dont ils faisaient preuve, car c'était vraiment la technique employée, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un combat classique, on est dans un combat de service secret, vous voyez, d'infiltration. Et puis j'avais pris aussi l'exemple d'un de ces bandes bourgeois qui a beaucoup sévi dans le département, dans les départements voisins aussi, pour un peu suivre son itinéraire. Alors, je ne vais pas faire le détail, je ne refais pas la conférence, vous inquiétez pas. Mais ce qui est curieux, donc j'ai fait une conférence en français qui était traduite justement par ce professeur d'université simultanément, vous voyez, enfin, avec un petit décalage. Donc c'était d'abord assez curieux à faire. Mais il m'a envoyé un article de presse un peu pour évoquer la conférence, mais pas seulement. Il y avait aussi une présentation qui était faite qui généralisait. Après, il y a eu un professeur allemand qui a raconter la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, quand ces Français sont en Allemagne, dans les derniers temps, fin 44 et début 45, et qui continuent à combattre pour le nazisme. Voilà. Donc il y avait cet ensemble. Et je souhaitais en fait donc évoquer cette compagnie, donc qu'on appelle la 8e compagnie Brandebourg, qui était installée dans toute la région Provence, de la Provence, des Alpes, mais aussi sur les bordures du Languedoc-Roussillon, etc. Donc, qui avait pour mission d'infiltrer les maquis et qui utilisait justement donc ces Français, le plus jeune, je crois que je l'avais déjà dit, avait 17 ans, pour jouer en fait les réfractaires les réfractaires donc au service du travail obligatoire qui est instauré à partir de 1943 pour rentrer justement dans les rangs de la résistance, repérer les lieux, les effectifs, l'armement, et puis ensuite ressortir de ces réseaux pour revenir cette fois-ci en armes, en uniforme allemand, pour exterminer. Hein. Vraiment, c'est vraiment l'objectif pour exterminer.
Oui, c'est ce que vous aviez évoqué un petit peu la dernière fois que vous étiez venu, lors de votre dernière mission.
Voilà, exactement. Voilà. Alors là, je vais parler d'un cas particulier, puisque ça, je l'avais pas évoqué. C'était le cas donc d'un brandebourgeois, un Français qui s'appelle Gilbert Lamblin, parce que c'est un personnage qui est tout à fait emblématique, qui était considéré comme l'un des plus violents. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment mis en œuvre tout ce qu'il pouvait faire pour faire souffrir, il a fait des choses absolument abominables hein, à des hommes et à des femmes. C'est une violence, si vous voulez, c'est une violence qui dépasse le simple cadre de la violence pour obtenir de l'information. Et c'est vraiment une violence, c'est une violence destructive, qui ne reconnaît pas, oui, l'humanité de celui qui est en face. Oui, c'est vraiment, on n'imagine pas. Et quand on lit les comptes rendus d'audition, les témoignages de ceux qui ont survécu à ces violences ou qui ont été témoins de ces violences, hein, tout simplement, on est absolument effaré Et on s'interroge sur la condition humaine, parfois, hein, dans des contextes très particuliers, hein, qui favorisent, évidemment, cette violence. Alors, ce brandebourgeois est intéressant parce que c'est l'un de ceux qui s'est infiltré, justement, à Sisteron. L'histoire est assez simple, en fait. Les Allemands montent une opération très importante contre les maquis. Ils ont besoin de troupes. À Sisteron, il y a des troupes. Donc, on dégarnit Sisteron pour les envoyer où on compte faire, justement, ces opérations. La citadelle est mal protégé. Il y a à l'intérieur des résistants qui sont emprisonnés. Donc que pense faire la résistance à ce moment-là? Eh bien, c'est de profiter justement du fait qu'il reste quelques Allemands dans la citadelle pour libérer, évidemment, hein, ceux qui sont... Alors, ils empruntent des uniformes à des gendarmes, hein, qui leur prêtent tout à fait naturellement, hein, puisque ce sont eux-mêmes des résistants, et réussissent à rentrer. Alors en fait, ils accompagnent des faux prisonniers, vous voyez, hein, ils réussissent à rentrer à la citadelle, ils réussissent à maîtriser les 11 soldats qui sont encore là, et libèrent donc les hommes, mais prennent, font prisonniers les 11 soldats. Ce qui est une chose très, très importante, car c'est ça, sans doute, l'élément déclencheur qui va faire que les Allemands vont, alors passez-moi l'expression, mettre le paquet pour justement libérer ces 11 soldats allemands. Et donc, pour commencer, donc la technique est toujours la même. Avant de mener une opération, on utilise ces Français qu'on fait rentrer dans la population à Sisteron, qui se fondent dans la population. Ils parlent français, hein, certains sont même de la Provence et parlent le provençal, connaissent les us et usages. Un témoin dira que Lamblin joue à la pétanque, voyez. Voilà, donc il rentre tout doucement, il s'insère quelques semaines avant l'opération au sein de la population, ils appartiennent au paysage au bout d'un certain temps, et ils cherchent à obtenir des informations. Ce Lamblin était caporal, donc il avait un petit grade dans l'armée allemande, hein, on est bien dans l'armée allemande, dans les services secrets, et quand on regarde un petit peu d'où il vient, on s'aperçoit qu'en fait, alors, il était originaire en fait de la Meurthe-et-Moselle, c'était un ouvrier, hein, appartenant au Parti populaire français, donc qui est un parti collaborationniste, hein, un parti d'extrême droite, évidemment, collaborationniste. Il avait plusieurs noms, comme dans tous les services secrets, il s'appelait Gilbert, Blandin, vous voyez, Lamblin, Blandin. Il s'appelait aussi Gérard de l'Estable, vous voyez, il se donnait une particule. Et il avait un surnom, on l'appelait le beau Gilbert, hein, parce qu'il présentait bien. Un témoin assisteront dira qu'il ressemblait à un zazou. Vous voyez, ces garçons élégants, très à la mode. Il avait une maîtresse, hein, on connaît toute son histoire, qui avait un surnom qui s'appelait Josette, hein, donc qui était en fait une femme née à Rouen. Et puis il en avait une autre d'ailleurs aussi, en fait il y en avait deux, hein, qui était une jeune fille, qui était très jeune, hein, qui était originaire d'Italie, et qui a été condamnée à mort, elle, par la Cour de justice de Vaucluse. Donc vous voyez, ce n'était pas non plus des gens qui étaient neutres, hein, ce n'était pas des maîtresses, c'était vraiment des gens aussi impliqués, car ces femmes étaient, elles aussi, utilisées pour faciliter les infiltrations. C'est-à-dire que souvent, on jouait le couple. Vous voyez, c'est un couple qui s'installe. Vous voyez, un homme, une femme, et on rentre. Alors chacun joue un rôle. L'homme va plutôt vers les hommes, la femme va aussi vers les hommes pour essayer de les faire parler. Vous voyez, pour voilà, tout ça a été très travaillé. Hein. Il y avait vraiment une technique. Voilà. C'est un garçon qui a fait qui a été à l'école jusqu'à 13 ans, qui a d'ailleurs raté ses études, n'a pas le certificat d'études. Les rapports disaient qu'il était paresseux, menteur, et qu'il avait très mauvais caractère. Et donc, voilà comment il est décrit quand il est enfant. Après, il travaille dans une fabrique de jouets avant la guerre, hein, donc il est ouvrier, où on le considère comme honnête et consciencieux. Donc pas de problème. Mais très vite, après la défaite en 40, il va se mettre au service de l'Allemagne. En 41, il travaille pour une entreprise allemande.
C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait qu'il a basculé ?
Alors en fait c'est quelqu'un qui est déjà de l'extrême droite avant la guerre. En réalité, il est déjà, avant la guerre, membre du PPF. C'est en fait, souvent, les gens qu'on voit, ces fameux Français qui ont participé, alors il y a un peu de tout, hein, mais souvent, ce sont quand même des gens qui, idéologiquement, sont très radicaux, et sont très impliqués avec l'extrême droite. Vraiment, hein, c'est vraiment... C'est vraiment l'anticommunisme, vous voyez. Hein, il y a le monde ouvrier communiste, et puis il y a un monde ouvrier qui est totalement anticommuniste et qui est vraiment du Parti populaire français. Et d'ailleurs, c'est un terreau très favorable hein, pour le monde ouvrier, c'est un terreau très favorable aussi face aux communistes. Hein, vous voyez, il y a une sorte d'opposition qui se crée, et c'est vraiment ça le terreau, c'est l'anticommunisme qui est fondateur, on va dire, de... Voilà. Ce qui ne veut pas dire que tous les anticommunistes ont été des collaborateurs. Hein. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Hein. Mais là, en l'occurrence, ceux du PPF, on peut dire que oui. Alors, il adhère même, en 1941, à un organisme qui est une organisation paramilitaire nazie, qui s'appelle le NSKK, qui est vraiment une toute petite, petite organisation, mais qui milite vraiment hein, pour la cause nazie. Et qui accepte des volontaires français, car au départ, ce n'est pas une organisation française, enfin, qui accepte des Français. Et puis ensuite, il reçoit une formation militaire en Belgique, sous uniforme allemand. Et c'est ensuite, en 1943, que justement, il est recruté, sans doute pour ses qualités, pour son engagement pour l'Allemagne, pour ses qualités aussi, sans doute physiques, sa capacité, sans doute, à nouer le contact, vous voyez. Il est donc recruté par la 8e compagnie Brandebourg pour justement se spécialiser dans cette infiltration des maquis. Alors, tout ça se passe à Paris, en fait. Hein. Il est recruté en fait par un intermédiaire français hein, qui s'appelait le comte de Cérès, qui recrutait pour les Allemands. Et puis, il va donc être formé à l'école des Brandebourgeois, qui est installée aux Aubonnes, dans le sud-ouest. Il est formé, il suit des cours. Il apprend à manier les armes, les explosifs, la radio. Enfin voilà, on lui donne une formation militaire de base qu'il avait déjà, puisqu'il avait déjà été instruit sous uniforme allemand auparavant. Et puis ensuite, il entre en opération à partir du moment où les Allemands occupent la partie qui était occupée par les Alliés à partir donc de septembre 43. Vous savez qu'en septembre 43, nous ici, on est en zone d'occupation italienne. Les Italiens partent, ils sont immédiatement remplacés par les Allemands, et c'est à partir de ce moment-là que la 8e compagnie Brandebourg, hein, donc formée de ces Français, encadrée par des officiers et des sous-officiers allemands, va œuvrer pour justement détruire ce que les Allemands appelaient les bandes. Hein, donc en fait, les groupes de réfractaires, de résistants qui étaient installés sur le territoire et qui en fait se cachaient au départ. Hein, voilà. Alors ils participent à différentes opérations, dans le Var, dans le Vaucluse et ailleurs. Il participe surtout à une très grosse opération menée par les Allemands, qui est celle d'Izon-la-Bruisse en février 1944, où il y a plus de 30 résistants qui sont massacrés. Ensuite, il intervient à Apt. Il participe à l'opération de Bannon. Donc ça, c'était en décembre 1943. Il continue... Pour Izon-la-Bruisse, c'est l'un des moteurs, c'est un de ceux qui ont infiltré le maquis. Hein. Donc ça, c'est important. Et c'est lui qui ensuite va conduire les Allemands pour ces 32 maquisards fusillés. Hein, voilà. Et puis ensuite, étonnamment, en mai 1944, il est sorti de la compagnie et il est envoyé à Méry-sur-Oise, donc dans une usine, pour essayer d'infiltrer les milieux résistants ouvriers. Donc il se fait embaucher dans cette usine. Il va à l'hôtel pour loger, un petit hôtel ameublé, vous voyez, plutôt. Et sa logeuse, vous voyez comme quoi il y a de l'ironie dans tout ça, sa logeuse donc, l'inscrit sous le nom de Paul Blandin, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, né le 8 juillet 1923 à Lunéville, et vous allez voir
toujours dans l'Est,
employé de bureau, domicile habituel, Bannon. Autrement dit, il donne pour domicile la première opération à laquelle il a participé en 4-5 décembre 1943, qui est une opération armée dans les Alpes-Provence, dans les Basses-Alpes de l'époque. Vous voyez donc Bannon, venant d'Avignon et allant vers un autre lieu. Il arrive le 5 mai 1944, il reste quand même jusqu'au 15 juin 1944, et il a des armes, des effets civils. Et la logeuse, donc, qui a vu tout ça, a vu les armes, les effets civils, dit en fait qu'elle n'avait rien vu du tout parce que sans arrêt, hein, je cite, il avait manifesté la haine du Bosch. Donc en fait, il continue dans sa couverture pour se décrire hein, comme quelqu'un, évidemment, contre la collaboration, contre les Allemands, etc. Ensuite, il revient à Avignon en juin 1944. Donc là, on est vraiment la période la plus radicale dans la répression. Il va, pour cet esprit, où est l'état-major de la 8e compagnie de Brandebourg. Et puis ensuite, il est à Cavaillon. Hein. Et c'est important parce que Cavaillon, il y a une section qui était commandée par Swing, qui était un Allemand, qui en fait rayonne sur la région de Cavaillon, mais surtout sur les Basses-Alpes. Donc c'est elle qui intervient toujours dans le département en venant par APT, en fait, hein, tout simplement par la route d'APT. Hein. Les gendarmes, quand ils décrivent les opérations de ces gens dont ils ont du mal à comprendre qui ils sont, ils disent, bah, à la fin, ils ont repris la route d'APT. Il fait partie donc d'opérations allemandes, Vinon-sur-Verdon, où il y a des exécutions, Lambesque dans les Bouches-du-Rhône, voilà, enfin, je ne vais pas faire la description de toutes ces activités, mais le maquis de Saint-Saturnin d'APT, où là, il fait des choses absolument abominables à des femmes et des hommes, il abandonne une femme qu'il a pour laquelle il a tiré une balle de revolver dans le ventre en le laissant mourir, vous voyez, enfin, vraiment des choses tout à fait atroces. Et finit donc par faire cette opération hein, contre le maquis de Bayon, hein, qui est la libération des 11 soldats allemands et qui se traduit par l'exécution de presque tous ceux qui ont été faits prisonniers à Bayon. Alors, on pourrait dire que l'histoire s'arrête là, sauf que lui, donc, ce personnage continue à sévir, continue sa guerre, avec l'avancée des troupes alliées côté Normandie et après le débarquement de Provence le 15 août, il remonte, suit les Allemands et continue à combattre. Il participe au combat de la poche de Colmar et c'est à ce moment-là qu'il est fait prisonnier. Alors, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs toutes ces informations, car il est fait prisonnier, il est livré à la police française, puis à la justice, et c'est donc commence une procédure, hein, tout simplement, des enquêtes qui vont être menées dans le cadre de la Cour de justice pour juger quelqu'un pour des faits de collaboration, en l'occurrence. Alors, je vais simplement, pour terminer, dire que ce personnage qui est arrêté, on aurait pu penser, on aurait pu finalement avoir que ces interrogatoires, sauf qu'on a une pièce supplémentaire qui est la conséquence de l'arrestation d'un autre de ses camarades qui se retrouve dans la même prison. Et que font deux prisonniers qui se connaissent? Ils essaient de communiquer. Et pour communiquer, comme ils n'ont pas de contact physique l'un vers l'autre, ils utilisent en fait un emballage d'une lessive allemande pour envoyer un mot qui va être en fait intercepté par l'administration. Et ce mot va se retrouver dans son dossier d'instruction. Et dans ce mot, il dit quoi? Il dit qu'il a quelques regrets, mais pas les regrets d'avoir collaboré. Le premier regret, parmi ses regrets, le plus important, c'est qu'il n'a pas pu, à cause de son arrestation, recevoir sa croix de fer de première classe qu'il devait recevoir. Donc ça suppose que déjà, il avait déjà la croix de fer de deuxième classe. Et puis, il dit, en fait, il essaie de donner une ligne de conduite à celui qui s'est fait arrêter, en lui disant, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il ne faut pas dire, ça tu peux le dire, ça fais attention. Là, par exemple, tout le monde pense que c'est un adjudant allemand qui était là, mais en fait, ce n'est pas l'adjudant, c'était un capitaine et c'est lui qui commandait la compagnie, car c'était une technique allemande, ça, en fait. Les gens, les vrais chefs étaient camouflés sous les petits grades. Voilà. Et puis, il dit ça, tu peux le dire, parce que ça, ils le savent, vous voyez, enfin, voilà. Donc, et surtout, il écrit, malgré cela, Je suis et je reste un nazi. Hein, donc c'est ce qu'il dit à son camarade. Depuis ma capture où je n'ai pu me servir du poison que je possédais, malgré le traitement subi depuis le 26 février 1945, je n'ai pas parlé sous les coups. J'avais la joie de vous savoir de nouveau en Allemagne. Sous les coups, pour en finir, j'ai raconté que sur le front de Colmar, j'avais fait des prisonniers. Si on te demande sur mon compte, hein, ce qu'il dit à son camarade, dis franchement que j'étais en relation constante avec les chefs, que tu ignores Swing était Hauptmann, donc capitaine, et non adjudant. Si on te demande si j'étais au PPF, ne le cache pas. Enfin, parce que ça, les enquêteurs le savent, je ne pense plus avoir à te dire, je n'aurai donc pas la joie de porter ma croix de fer de première classe, elle était arrivée. Je l'aurais eu en rentrant, où nous devions faire une Kameradschaft, donc en fait une fête entre camarades. Enfin, aïe Hitler quand même. Voilà, pour vous dire, vous voyez, jusqu'où certains Français ont été dans la collaboration avec les nazis.
Ah, c'est plus l'endoctrinement, là.
Ah, c'est totalement... Bon, ce sont des, c'est incroyable. Alors, il termine donc par Hitler, hein, comme je vous le disais. Son camarade va être condamné, mais pas à mort, parce qu'il était très jeune, hein, et on va tenir compte de son âge. Lui, qui est un peu plus âgé, va être condamné à mort et exécuté le 28 novembre 1946, près de Colmar. Voilà. Hein, donc, voilà la fin, l'épilogue de cette histoire, mais qui donne lieu à un très gros dossier, à une enquête très sérieuse qui a été menée par la police française dans tous les départements où Lemblin a sévi. En fait, en gros, des Alpes-Maritimes jusqu'aux Gards, en passant par les Basses-Alpes, les Hautes-Alpes, le Vaucluse, etc. Vous voyez, vraiment, on a beaucoup d'éléments. Ça fait un dossier qui fait plusieurs centaines de pages, qui est énorme à l'époque, hein, parce que les dossiers, souvent, les dossiers de justice sont beaucoup plus courts, hein, au maximum 100 pages, 150 pages. Donc là, on en a plusieurs centaines. Et l'objectif maintenant des archives départementales, ça va être justement de repérer ces gens qui sont très difficiles évidemment à repérer, puisqu'on est dans les services secrets, pour essayer de voir ensuite où ils ont été jugés, pour aller voir évidemment accéder aux procédures, car depuis décembre, je crois que je l'avais déjà dit, ces procédures sont librement accessibles, et donc de pouvoir essayer de reconstituer l'itinéraire de ces individus qu'on sévit dans le département. Voilà, ça c'était la première histoire. Voilà, ce n'est pas une histoire très heureuse. J'ai une deuxième histoire, mais avant de la raconter, on va faire peut-être une petite pause musicale, et puis ça me permettra aussi un peu d'évoquer à travers cette musique contemporaine, hein, de Philippe Glass, ce que c'est qu'aussi le travail des archivistes. Thank you. Voilà, donc alors, pourquoi avoir écouté, enfin avoir proposé donc ce morceau? Parce que, d'abord, j'aime beaucoup Philippe Glass, hein, j'aime ce côté justement répétitif, mais c'était aussi, d'une certaine manière, faire une transposition musicale de ce que c'est que le travail d'un archiviste, car finalement, que fait un archiviste si ce n'est de reprendre sans arrêt des documents qui se ressemblent tous, qui représentent des mètres et des mètres et des mètres et des mètres, hein, vous imaginez des mètres et des mètres de permis de construire. Hein, j'ai un agent qui travaille depuis 4 ans, il ne fait pas que ça, hein, à classer, à éliminer, à ranger, à conditionner, à indexer des permis de construire. Alors, ça paraît incroyable, mais c'est très important, un permis de construire, en fait. Hein. Ça raconte l'histoire d'une maison, ça raconte l'histoire donc d'un village. Voilà, donc tout ce travail-là, c'est un travail très répétitif qui est très long. Il a fait ça pendant des années pour finaliser donc finalement son travail aujourd'hui. On prend un dossier, on regarde ce qu'il y a dedans, on l'analyse, on enlève comment dire, les éléments métalliques, hein, qui vieillissent très mal. Souvent, ça rouille et après, ça détruit les documents, en fait. Hein. On enlève tout ce qui peut, les élastiques, hein, tout ce qu'on met dans un dossier, quoi, en fait. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, ce côté minimaliste. Alors, on mélange les deux. En fait, la force d'un archiviste et d'un historien, c'est la force de la source. C'est-à-dire, en fait, en gros, ce n'est pas trouver un document exceptionnel, c'est avoir une série de documents qui rend l'histoire exceptionnelle. Alors, les cas de permis de construire, ça peut paraître un peu étonnant de dire quel intérêt, mais c'est absolument incroyable en fait. Quand vous avez des permis de construire, vous avez des plans à l'intérieur, vous avez des dessins, vous avez en fait ce que c'est que le cadre de vie de quelqu'un à une certaine époque, vous voyez, dans les années 60, dans les années 50, dans les années 80, et on oublie tout ça, vous voyez, si on n'a pas les éléments.
La taille des pièces.
Exactement, bien sûr, tout ça, le volume occupé, le nombre de pièces, comme le nombre de pièces est lié au nombre d'enfants, vous voyez. Donc, vous savez, une maison, hein, raconte beaucoup sur ceux qui y habitent, raconte aussi beaucoup d'une époque, les matériaux utilisés, voilà. Donc, c'est très important de garder ces éléments-là avec comment dire, les plans d'occupation des sols, hein, comme on disait autrefois, maintenant ce sont des plus, mais voilà. Tous ces éléments urbanistiques qui sont très importants pour comprendre en fait les formes d'habitat, les formes d'organisation sociale. Hein, un plan d'une ville dit beaucoup sur la société qui occupe cette ville. Voilà. Le côté donc répétitif minimaliste, c'est finalement d'avoir un dossier assez mince, vous voyez, quelque chose qui tout seul ne dirait pas grand-chose, mais qui dans un ensemble représente un intérêt. Alors j'ai un exemple très concret. Nous travaillons actuellement sur les demandes de cartes volontaires de combattants des cartes de combattants volontaires de la résistance. Hein, c'est donc des cartes qui étaient la demande était instruite par le service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un demandait à avoir ce statut, donc obtenir cette carte, et pour ce faire, donc on faisait une demande. Donc on a comme ceci aux archives des milliers, des milliers, des milliers, je ne sais pas encore combien. On en est à 1 500 pour le moment, mais je pense autour de 7 000, 8 000 demandes de cartes de combattants volontaires à la résistance. Sachant qu'on va dire que seulement une demande sur 5 aboutit. Pourquoi? Parce que, en fait, les critères sont très précis, sont très contraignants. Il faut, en fait, pour être résistant, c'est le principe de la règle des 3 mois. Alors, c'est une règle fondamentale pour être ancien combattant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir été 3 mois. Soit sur une zone de combat, soit pour la résistance, avoir réellement a eu une activité pendant 3 mois, mais pas 3 mois à n'importe quel moment, 3 mois avant le 6 juin 1944. Ce qui exclut en fait beaucoup de gens qui se sont engagés dans la résistance armée après le
Après.
débarquement, évidemment. Voilà. Donc ça exclut beaucoup de. Beaucoup en fait ont effectivement une activité résistante, ont une activité armée, quelquefois qui a duré jusqu'en 1945, hein, sous les armes, mais. Comme ça a été commencé un mois avant, au mois de mai, etc., et qui n'ont pas les 3 mois, donc ils n'ont pas le statut. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas, évidemment, ils n'ont pas démérité, hein, mais c'est vraiment. Voilà. Et dans ces dossiers, en fait, qui a priori m'intéressait pas au départ, parce que je trouvais qu'on allait, agent des archives, un peu se perdre dans cette masse, un jour, quelqu'un avait demandé à consulter un de ces dossiers. Et dans ces cas-là, il se pose toujours la question de savoir si le dossier est communicable. Hein, je vous avais expliqué, les archives, il y a des règles. On ne peut pas montrer n'importe quoi à quelqu'un qui le demande. Il y a des conditions, et parmi ces conditions, il y a la question de l'ancienneté de l'archive et le contenu de l'archive. C'est-à-dire que, par exemple, je l'avais dit, pour le médical, des renseignements d'ordre médicaux sont difficiles à consulter. Il faut attendre un laps de temps très important pour pouvoir les regarder. Donc, une personne vient dans mon bureau avec le dossier en me disant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on communique pas? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on regarde les dossiers et puis on regarde ce qu'il y a dedans. Et je prends le premier dossier, et dans le premier dossier, je trouve une histoire presque incroyable, une histoire qui est très triste, qui se finit très mal, mais c'est un peu le problème des archives, hein. Vous avez compris que souvent, aux archives, on n'a pas des histoires très heureuses, hein. Voilà. Une histoire qui, quand même, raconte quelque chose de la guerre. Cette histoire, en fait, vous savez que dans la revue du conseil départemental, j'écris un petit. Nous publions en fait des archives, un petit texte chaque mois qui raconte une histoire d'archives en fait, hein, comme notre émission en fait, hein, comme votre émission. Et dans cette histoire, je raconte en fait l'histoire d'un jeune FTP, F, donc un jeune franc-tireur et partisan français, donc en fait la résistance communiste, qui était du Chaffaut et qui est arrêté le 23 mai 1944 sur la route de Courbon par les Allemands. Il n'est pas tout seul. Les Allemands tentent d'intercepter donc trois garçons, hein, trois jeunes garçons qui ont cet âge. Hein, et ces garçons, évidemment, que font-ils? Ils se sauvent. Une fusillade débute, qui se traduit par la mort d'un de ces jeunes. Donc trois jeunes déjà morts. Les deux autres ne peuvent s'échapper, donc sont arrêtés par les Allemands. Que fait le père du jeune homme, hein, quand il apprend que son fils a été arrêté? Eh bien, il va voir le maire du Chaffaut, qui était Monsieur du Chaffaut, et ils se rendent à la Gestapo pour essayer de voir quel va être le sort de son garçon. Et il est reçu par le chef. Le chef de la Gestapo s'appelait Wolfram, qui était un gestapiste virulent. Il avait dit dans une réunion à la préfecture, enfin dans une réunion organisée à Avignon entre chefs de la Gestapo, mais où il y avait un représentant de la préfecture de Vaucluse, qui réglerait le problème des maquis en deux temps, trois mouvements. Oui. Donc il avait dit en janvier, en mai, le problème est réglé. Donc il va voir Wolfram, c'est celui qui se fait tuer le 6 juin 1944 au col des Toutzors, hein, il tombe dans une embuscade menée par les FTP, justement. Et ce gestapiste, entre guillemets, rassure hein, le père en lui disant que bien que son fils ait été trouvé porteur d'un revolver et de munitions, de différents calibres, donc ça veut dire qu'il portait des armes, des munitions pour quelqu'un d'autre en fait. Il dit au père et au maire de Chaffaut qu'il ne le fusillerait pas, mais qu'il l'enverrait en Allemagne. Et c'est effectivement ce qui va arriver. Il est déporté dans un camp de travail en Allemagne en juin 1944, donc vraiment oui, sur la période de la libération. En même temps d'ailleurs qu'un marchand de vin dinois qui avait été arrêté lui le 31 mai. Donc ils se retrouvent les deux en Allemagne. Mais. Ils sont à l'est, les Russes avancent, et comme les Russes avancent, évidemment, tout le monde recule. Et donc, c'est un peu la débandade. Donc, les Français qui sont dans ce camp de travail s'échappent, partent sur les routes, et vont jusque dans un village donc, de la Haute-Silésie. Alors, pourquoi connaît-on la suite de cette histoire? Ben, tout simplement parce que en 1956, donc, vous voyez, nous sommes.
12 ans plus tard.
Voilà. En 1956, une femme, une Polonaise, écrit deux courriers à la famille donc à la famille de ce garçon, au Chaffaut, en n'étant pas sûre que les lettres arrivent, mais elle écrit qu'en fait, elle a connu ce garçon, qu'elle l'a même aidé, mais que malheureusement, il est mort parce qu'il était évidemment affaibli et dans le froid, oui, il est mort en fait d'une congestion, d'une congestion pulmonaire. Voilà ce qu'elle raconte. Je l'ai trouvé derrière la grange, couché par terre dans la neige. Je m'approchais de lui et en langue allemande, je lui ai demandé: pourquoi êtes-vous couché là, monsieur? Il m'a répondu qu'il était malade et qu'il ne pouvait marcher plus loin. Je l'ai pris et apporté à la maison et fait coucher dans mon lit. Et je suis reparti travailler. Près de lui, j'ai laissé mon plus jeune frère, de 12 ans. Alors, elle va aider, elle va le soigner. Apparemment, il va mieux. Et puis, le dimanche, un dimanche de janvier 1945, il a tort de sortir en fait un peu trop vite. Il retombe malade, une rechute en fait, et donc il meurt en Allemagne. Voilà, c'est pour vous dire que cette histoire en fait on n'aurait pas su la suite, la fin de cette histoire s'il n'y avait pas eu cette lettre, enfin ces deux lettres, cette polonaise qui envoie un peu des lettres, un peu comme des bouteilles à la mer, vous savez. Hein, j'écris. Pourquoi d'ailleurs écrit-il au chafaud? Parce que ce jeune homme avait écrit un petit mot, sans doute avant de mourir, pour dire qui il était et à qui fallait-il prévenir. Parce qu'elle dit, hein, elle dit que quand il est mort, la Gestapo est arrivée. Alors quand on dit Gestapo, c'est peut-être la police allemande ou voilà. Et cette Gestapo a tout ramassé, tous les effets du jeune homme, et ce qui fait qu'il ne restait plus rien, sauf ce petit carton qu'elle avait conservé. Alors, pourquoi trouve-t-on en fait une demande de carte de combattant volontaire de la résistance pour quelqu'un qui est mort en 1945? Parce que, en fait, l'histoire étant connue après, que fait la famille? Eh bien, la famille va déposer une demande à titre posthume, et c'est effectivement à titre posthume que ce jeune homme du chafaud va obtenir donc la carte de combattant volontaire de la résistance. Voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, le travail des archives, c'est aussi d'aller un petit peu à la pêche, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire, en fait, on consulte, on tourne des documents, pendant des fois des heures. Hein. Et puis, d'un coup, vous avez une série de dossiers qui justement raconte des histoires très singulières, des itinéraires. En fait, ce qu'on recherche, hein, parce que quand on fait de l'histoire, évidemment, on peut avoir une approche très scientifique des choses, hein, quantitative, statistique, etc. Mais que l'histoire, c'est quand même l'histoire des hommes, et que évidemment, on a besoin d'avoir de la matière, de la chair, vous voyez, de raconter des destins singuliers. Là, je raconte cette histoire. Une des prochaines fois de nos rencontres, je raconterai l'histoire de ces femmes qui ont été des résistantes, dont j'ai découvert l'activité grâce justement à ces dossiers, et qui étaient installées à Manosque. Et ces femmes qui, elles, ont obtenu la carte de combattant volontaire, qui ont été des résistants de la première heure, hein, début 43, vous voyez, ce qui est extrêmement rare, hein, vraiment, dans les dossiers, les 1500 qui ont été vus pour le moment. En général, ça remonte jamais au-delà de début 44, hein, c'est vraiment janvier, février. Là, on est vraiment dans l'année 43, c'est en fait dans la période d'occupation italienne, où là aussi, il y a eu une activité résistante.
Et entre 40 et 43, là, vous parlez de 43 de la résistance, et il y a quoi dans cette période-là?
Alors, cette période, en fait, est effectivement, elle est très compliquée à aborder à cause des sources. Quand on aborde la question de la résistance, en fait, c'est d'abord quelles sont les sources. Alors la première source, la source la plus évidente, c'est le témoignage oral. Les résistants eux-mêmes, on va dire que ça a été fait. Soit ils ont été interviewés, soit ils ont raconté leur histoire à travers des livres, à travers des conférences, à travers des publications diverses. Voilà. Après, les papiers. Quels papiers trouver? Alors on a effectivement ces demandes de cartes. Ces demandes de cartes, il faut justifier sa qualité de résistant. Donc il faut raconter ce qu'on a fait. Dire où on était.
Et trouver des témoins.
Exactement, il faut des témoins qui attestent ce que vous avez fait, ce qui est d'ailleurs une des difficultés, hein, parce que quelquefois il n'y a plus de témoins, vous voyez. Donc il faut trouver des moyens directs pour dire j'étais là, j'ai fait ça avec un tel. Après on recoupe tout ça, hein, on essaie de voir si effectivement tout le monde raconte la même chose. Alors souvent les demandes sont presque collectives, hein, c'est-à-dire qu'en fait en gros vous avez une association de résistants qui livrent qui formulent leur demande au même moment. Ce qui fait que vous avez 15 dossiers où vous avez la même histoire, hein, le même groupe FFI, le groupe FTP, le même groupe de l'armée secrète, hein, voilà. Donc ça, voilà, là, il y a une cohérence totale, mais il faut effectivement des preuves. Et les preuves, effectivement, vous avez raison. C'est pas d'amener la carte d'un Allemand qu'on aurait abattu, vous voyez. C'est vraiment trouver le témoignage de quelqu'un qui dit qu'effectivement, vous étiez dans ce réseau-là, vous étiez dans ce maquis-là, que vous étiez de telle date à telle date, et ça, c'est une très grande difficulté. Donc ça, c'est le premier problème.
Et les habitants de différents villages pouvaient également en attester?
Alors en fait, non, on demande à des résistants, à des chefs résistants, et à des chefs résistants, donc à des gens dont on est sûr qu'eux ont résisté, vous voyez.
Mais par rapport aux personnes infiltrées qui pouvaient également prétendre à ce genre de carte,
oui.
Comment ils pouvaient vérifier le vrai du faux?
Ben, en fait, alors, il y a quand même des gens qui sont immatriculés dans la résistance. Hein. Il y a des gens qui avaient même des grades, hein, qui avaient. On a la date de l'engagement. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ceux-là. Donc ceux-là, il n'y a pas de problème. C'est enregistré à Alger. Hein, c'est quasiment militaire, en fait. Hein, ils se sont engagés. Ils respectent la discipline. Ils ont les risques. Ils s'exposent donc aux punitions prévues par règlement disciplinaire. Donc ceux-là, il n'y a pas de problème. Et ceux-là, c'est ceux-là qui s'infiltrent, en fait. Hein. C'est ceux-là qui étaient, justement... La difficulté, effectivement, c'est de faire la part des choses. C'est-à-dire, en fait, en gros, de dire... Parce que la difficulté, c'est la question de la durée, en fait. Quand vous êtes résistant, je disais la règle des 3 mois. Mais la règle des 3 mois, c'est 3 mois complets. C'est pas une semaine là, vous voyez. Il faut qu'il y ait une continuité. Vous avez des gens qui ont été à un moment donné dans les maquis, qui sont revenus ensuite dans la vie, qui ont même été, qui sont repartis au travail. Vous voyez, et qui sont repartis après. Vous voyez. Donc la difficulté, c'est déjà ça. Outre le témoignage. Hein, donc c'est vrai que c'est très compliqué. Il y a eu des recours, hein, évidemment. Hein, les décisions, quelquefois, ont été constatées à juste raison. Hein, il y a eu aussi des décisions qui ont été favorables, qui ont été accordées et qui ensuite ont été. Annulé, hein, simplement parce qu'il y a eu des contrôles a posteriori, on s'est rendu compte que la personne dont on pensait qu'effectivement les certificats validaient, hein, donc une activité résistante, en fait, il y avait, c'était un peu exagéré, vous voyez, donc il y a aussi ça, hein, mais c'est vrai que c'était très compliqué. Donc ça, c'est la deuxième source. Après, quelles sources on a? On a les rapports de gendarmerie, les enquêtes administratives, les renseignements généraux qui eux-mêmes font des rapports. On a évidemment ce que font les Allemands, mais les Allemands, on l'a jamais ici. On n'a pas de rapport allemand. On a en fait ce que disent les gendarmes de l'activité des Allemands. Vous voyez. Donc en fait, souvent, les gendarmes ne sont pas capables de décoder ce qui se passe en fait. Hein. Quand ils voient les brandebourgeois œuvrer. Il n'imagine pas que ce sont des Français qui sont au service allemand, dans une organisation très structurée, très organisée, les services secrets, donc la BERD, dirigée par l'amiral Canary, donc service secret de l'armée allemande, tout ça, ils ne peuvent pas le savoir. Oui. Donc, quand on regarde les rapports français, on est dans une sorte de méconnaissance du sujet, voyez, et donc on ne voit pas de quoi il s'agit. Donc il faut tout traduire. Après, le travail d'un historien, c'est un peu le travail d'un enquêteur, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va chercher dans différentes sources, hein. C'est le principe. Alors, un enquêteur irait différentes personnes ou différents éléments matériels. Nous, les personnes, on les a pas. Donc, on va chercher les traces d'activité et en recoupant ces informations, en les analysant, en vérifiant leur véracité, etc., on arrive à justement reconstituer une histoire. Mais c'est très fragile. Moi, on en parle quelquefois avec ceux qui travaillent sur des sujets très contemporains. Parce que quand on travaille sur des périodes plus anciennes, finalement, c'est plus facile. Paradoxalement, oui. Parce que d'abord, on est dégagé du poids social, vous voyez, de cette histoire qui est assez récente, vous voyez, aussi. Hein. Il faut faire attention. On peut pas s'avancer comme quand on parle du XVIIIe siècle, où là... On n'aura pas grand monde pour dire « c'est scandaleux ce que vous dites ». Donc voilà, il faut faire très attention. Hein. Il faut tenir compte aussi qu'on est dans des sujets de mémoire, vous voyez, et non pas seulement d'histoire. Et que donc on est très attentif à ces questions-là. Évidemment que ce qu'on dit dans les publications des archives, ça peut être discuté. Hein. Les choses ne sont pas définitives. Et que nous-mêmes, on se rend compte quelquefois... On a avancé un argument et on se rend compte que finalement cet argument n'est pas solide parce qu'on a découvert autre chose après. Oui, c'est ça le principe. Hein.
Et puis encore des personnes qui sont vivantes de cette période-là.
Vous avez raison. Il faut faire attention aussi. Les gens, on n'est pas dans un idéal. Vous voyez, on n'est pas dans un monde idéal où effectivement où on ne froisserait pas les gens. Vous voyez. Donc il faut faire très attention. Et puis la question de la mémoire, c'est la question de comment elle se construit. Hein, on en fera. Je pense qu'on pourrait faire une émission là-dessus, mais les personnes qui ont vécu cette période, qui sont quand même très lointaines maintenant, ont eu à la fois leur expérience, l'expérience des autres, ce qui a été raconté par les historiens, par les journalistes. Donc en fait, tout ça, après, constitue, vous voyez, une sorte de matière dont il est difficile quelquefois de faire la part. C'est-à-dire qu'on ne sait plus vraiment si la personne... Je pense, et comme moi et comme vous, sans doute, quelquefois, on a l'impression d'avoir vécu un événement qu'on n'a pas vécu en réalité, mais on nous l'a raconté, vous voyez. Ou alors on croit que notre mémoire, c'est notre mémoire qui est fidèle, alors qu'en fait, tout simplement, vous avez raconté l'événement tellement de fois qu'après, vous le savez, vous voyez, et que vous croyez que vous l'avez vécu. Voilà.
On s'invente en fait, on vous l'a raconté.
Mmh. Voilà. Ça, c'est tout le problème de la mémoire, hein. Ça, on sait, hein. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et que, moi, je dis toujours qu'on ne peut pas froisser les gens, vous voyez, qui ont été de vrais résistants. Parce que quand je regarde, comment dire, l'horreur que c'était, je me dis que c'était des gens vraiment très courageux et qu'ils méritent évidemment un respect infini pour ce qu'ils ont fait et qu'évidemment on ne peut pas en parler avec légèreté, voyez, et que justement quand on avance nos arguments et quand on évoque justement cette question de la collaboration, on fait très attention à ce qu'on dit.
Là, ces personnes-là ont quand même à peu près 90 ans, en gros, quoi.
En plus, ben, oui, bien sûr.
Vous avez pu en rencontrer?
Ah oui, bien sûr, oui. Alors, il n'y en a plus beaucoup, évidemment, hein, mais je racontais l'histoire de M. Pellegrino, qui est mort récemment, qui était venu dans mon bureau, donc qui avait écrit, hein, qui était un FTP, hein, donc jeune FTP, qui était venu dans mon bureau pour justement consulter les rapports de gendarmerie des opérations qu'il avait faites. Hein, il voulait les voir, donc c'était sur la fin de sa vie, hein, vraiment, et il m'avait demandé cette faveur. Alors, ce n'est pas une faveur en réalité, hein. Il avait évidemment tout à fait accès à ces documents, hein, puisque ils étaient communicables. Voilà. Donc je les ai cherchés et il m'a raconté, alors c'est intéressant parce qu'il me racontait son histoire par rapport au rapport. Alors il avait lu le rapport et puis il racontait que oui, mais là c'est pas vrai. Les gendarmes disent ça, mais ils disent ça pour justement qu'on ne nous cherche pas, vous voyez, pour nous protéger. Hein, en gros, voilà, tout est. Ou alors, dans un autre rapport, on dit qu'on a volé tous les tickets. Donc, y compris les tickets pour les bébés, hein, pour les enfants, en fait, pour déconsidérer la résistance. Or, en fait, ils ne les ont pas volés, vous voyez. Ils me racontaient tous ces éléments-là pour faire la part. Vous voyez, on a un rapport de gendarmerie, il y en a un qui est favorable à la résistance et qui camoufle l'activité de la résistance, et puis l'autre qui n'est pas du tout favorable à la résistance et qui, lui, accable la résistance. L'un et l'autre ne sont pas des descriptions objectives, vous voyez, de la réalité du terrain. Simplement, ces rapports sont de parti pris, vous voyez. Ça, il le racontait. Mais lui-même racontait quelque chose qu'il avait vécu comme un acteur, vous voyez. Lui-même était impliqué. Donc forcément, la question du recul et de l'objectivité se pose aussi. Hein, c'est une manière de voir les choses, vous voyez. Mais c'est ça qui fait l'intérêt du travail des historiens, c'est justement de confronter ces réalités, hein, entre le témoin, entre l'archive. Le secrétaire de Jean Moulin, lors de la publication de son dernier livre, disait « La mémoire est problématique, mais il y a une chose qui reste, c'est l'archive. Et l'archive, elle n'a pas bougé. Hein, depuis 70 ans, l'archive, elle est là. C'est pas comme la mémoire. Hein. Ce que vous avez dit il y a 10 ans n'est pas ce que vous avez dit il y a 20 ans, n'est pas ce que vous avez dit il y a 30 ans, n'est pas ce que vous avez ressenti. En fait, oui, mais en même temps, non. Oui, l'archive, elle dit une réalité, mais qui n'est pas forcément la réalité du fait. Elle raconte aussi l'engagement des gendarmes, vous voyez, d'un côté ou de l'autre, ou la neutralité, hein, peu importe. Hein, voilà, mais l'archive elle-même montre quelque chose, vous voyez, c'est pas la simple description des faits. J'imagine, je ne l'ai pas fait, mais j'imagine que ceux qui travaillent sur l'affaire Dominici, quand ils prennent les archives, se posent cette question. Est-ce qu'il y a un parti pris, hein, pour un côté ou pour l'autre, qui évidemment va transformer le document, hein, va donner un angle un peu particulier à l'affaire. Hein, on comprend tout ça, oui. Ben c'est pareil pour un rapport de gendarmerie. Voilà. Tout ça, évidemment, rend le sujet fort intéressant.
Et dernier point pour aujourd'hui, les maquisards étaient donc en dehors des villages, généralement.
Oui, bien sûr, oui.
Comment faisaient-ils pour survivre, pour manger?
Alors,
pour...
Eh ben c'est bien un problème, en fait. Hein, et c'était bien, d'ailleurs, un des problèmes, non seulement... parce qu'il fallait qu'ils se nourrissent, et c'était une façon aussi de les atteindre. C'est-à-dire qu'évidemment, ils devaient bénéficier de la complicité des habitants, forcément. Alors, il y avait plusieurs cas. Il y a un cas qui est... on a trouvé des cas assez étonnants, de réfractaires qui étaient donc installés du côté de la montagne de Lure, par là-bas, en limite Vaucluse-Basse-Alpes, qui se faisaient livrer des colis par leurs parents, par la poste. Donc vous aviez C'est absolument incroyable. Hein. Donc des colis qui montaient par la poste, on va dire, pour simplifier, une fois par semaine, au maquis. Oui. Voilà, c'est une façon. Après, évidemment, plus on avance dans le temps, plus la répression se durcit, plus les Allemands déploient des activités contre les résistants, et évidemment, plus le problème se pose du ravitaillement. Alors après, il y a toutes les méthodes, évidemment, mais la principale, c'est le support de la population. Et c'est pour ça aussi... que dans la résistance, il ne faut pas isoler le résistant ou le réfractaire, hein, qui est au maquis, de la population. Il y a évidemment des relations et des complicités. Dans les cartes de combattants volontaires de la résistance, dans les demandes, il y a des gens qui ont supporté, à la fois ont servi, donc ont donné à manger des boulangers, etc., mais aussi dont les maisons ont servi pour installer un état-major, voyez, pour une infirmerie, etc. Ces gens-là aussi ont participé, voyez, sous une autre forme à la résistance, mais parce que le père est trop âgé, voyez, il y a des enfants trop petits. Évidemment, l'action armée n'est pas possible, mais tous ces gens-là aussi ont été impliqués. Il y avait la question du tabac, parce que les gens fumaient. Et le tabac... ben, ça se vend.
Ça se fait pousser.
Eh oui, mais c'est difficile sous nos contrées. Donc, en fait, la seule solution, ils faisaient ce qu'on appelle les opérations tabac. C'est-à-dire qu'en fait, ils attaquaient les buralistes. Donc, vous savez, vraiment, hein, c'est des opérations tabac. Donc, en général, ça se faisait à deux. Il y en a un qui fait le guet à la porte et l'autre qui rentre, qui dit donnez-moi votre tabac. Et donc, ils prenaient le tabac et ils récupéraient.
Alors, ça se faisait avec l'aval des buralistes.
Voilà. En fait, il y avait, hein, vous avez raison, il y avait la complicité souvent des buralistes. Tout ça était une mise en scène, en fait. Hein. Évidemment, le buraliste, il donnait tout son tabac tout de suite. Hein, son problème à lui, c'était de pouvoir être sous la contrainte pour le donner. Et la contrainte faisait qu'évidemment, il était obligé de... Je ne sais pas si les autorités étaient dupes, mais il n'y a jamais eu d'accro par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est toujours bien passé. Toutes les opérations de tabac ne donnaient jamais lieu à une effusion de sang ou à des coups de feu. Hein. C'était vraiment... voilà. Vous avez raison, il y avait, je pense, une vraie complicité entre les deux.
L'heure tourne.
L'heure tourne, eh oui.
On se donne rendez-vous le deuxième jeudi de juin. Nous serons le 9.
Eh bien, écoutez, au 9 juin, si...
c'est ça, 9 si, juin.
Dans un mois.
Exactement.
Très bien, mais écoutez, hein, donc, j'essaierai de raconter d'autres histoires hein, sur, autour des archives. Merci à vous, et puis à bientôt.
Avec plaisir.